Rebonjour et bienvenue dans ce second épisode de ce Focus anniversaire, le podcast de la rédaction de RTL qui vous emmène dans les coulisses d'un jury d'assises avec toujours mes deux témoins, Marie qui a été jurée et une présidente de cour d'assises en exercice que l'on appelle donc Madame la Présidente. Et cette fois...
La cour va se retirer, l'audience est levée.
Et là, on sait que l'heure n'est plus à la prise de notes. C'est maintenant, vraiment, que tout commence. Et je ne sais pas ce que tu as ressenti, toi, Marie, à ce moment-là. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu la sensation que là, une forme de gravité s'imposait à nous, un peu comme si la responsabilité qui était la nôtre se concrétisait tout d'un coup.
Oui, complètement. Et c'est vrai que C'est là où, effectivement, après être passif, tu deviens vraiment actif. Et voilà, c'est là où faut échanger et se baser vraiment que sur ces éléments très, très, très objectifs et très neutres pour pouvoir ne pas... C'est vrai qu'on a une responsabilité, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça.
Et c'est aussi le moment où, dans mon souvenir en tout cas, dans la salle des délibérés, les magistrats tombent la robe. Et ce geste, à bien y repenser, il est très symbolique parce qu'à partir de maintenant, le président de la cour, ses assesseurs, bref, les magistrats professionnels et les jurés, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent, qui qu'ils soient, ont le même poids. Dans cette salle, une personne égale une voix. Alors bien sûr, celui ou celle qui préside ces assises va être un peu notre guide parce que ce que l'on découvre, c'est qu'un délibéré, ça se fait en plusieurs temps. D'abord, chacun est invité à se prononcer sur la culpabilité. L'accusé est-il coupable ? C'est la première question qui sera votée à l'issue d'un tour de table au cours duquel chacun va donner son point de vue, un peu comme dans cette scène du film mythique 12 hommes en colère.
Si nous parlions à tour de rôle... À vous d'abord.
Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Il est coupable, c'est mon impression.
Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement...
Ce sont donc les jurés qui commencent. Toi, Marie, tu avais préparé ce que tu allais dire ou ce qui a permis de forger ta conviction ?
Ouais, tout à fait. En fait, je l'ai préparé en écoutant les plaidoiries justement des avocats et le réquisitoire de l'avocat général, justement en essayant de me focaliser sur dans ce qu'il disait, sur les éléments vraiment objectifs ou reconnus par tous, en essayant de pas prendre en compte tout ce qui n'était pas objectif et vérifié.
C'est un peu chacun sa méthode à ce moment-là. Il y a donc ceux qui s'étaient fait des sortes de notes de synthèse, ceux qui avaient fait des colonnes. Moi, je me souviens que la veille au soir, j'avais relu toutes mes notes, surligné ce qui me paraissait important. Chacun d'entre nous, donc avec sa propre construction, a pris la parole. Les magistrats ensuite. Et même si chacun d'entre nous, c'est donc assez clair, positionné, tout est fait pour que le vote qui suit reste anonyme. On a tous des stylos de la même couleur, les mêmes petits morceaux de papier que l'on plie tous de la même façon après y avoir écrit simplement oui ou non. On les met ensuite dans l'urne et c'est le premier juré, celui qui a été tiré au sort en premier, qui va compter et déplier tous ces petits bulletins. Alors on entendait il y a un instant un extrait de 12 hommes en colère. Et la comparaison s'arrête là, à l'expression de chacun, parce que sur le vote, pour le coup, Madame la Présidente, pour le décompte, il n'y a pas besoin d'unanimité. C'est quoi précisément chez nous en France la règle ?
Alors, les règles, elles ont changé encore récemment, mais sur la culpabilité, c'est une majorité qualifiée. Je dis ce sont des majorités qualifiées parce qu'en fait, c'est pas les mêmes en premier ressort et en appel. En premier ressort, c'est 7 voix sur 9, on est 9 en tout, et il faut, pour qu'une personne soit déclarée coupable, il faut qu'il y ait 7 oui dans le sens de la culpabilité. En appel, c'est 8 sur 12. Donc, je rappelle qu'aux assises, la culpabilité de l'accusé ou son acquittement va se déduire des réponses qui vont être faites aux questions qui sont posées, hein, puisque c'est... sans doute vous en souvenez, l'accusé, un tel, est-il coupable d'avoir à Paris, le 22 novembre 2022, volontairement donné la mort à, par exemple, un tel ou un tel ? Il faudra répondre par oui ou par non. D'accord. Et voilà, lorsque 7 voix ont voté dans le sens du oui, à bulletin secret, je rappelle, on n'a pas besoin de savoir, on va arrêter le dépouillement, on n'a pas besoin de savoir s'il y a une unanimité ou pas. À partir de là, la personne sera déclarée coupable et sans doute vous en souvenez, l'énoncé du verdict, le président, il se contente de lire les réponses aux questions qui ont été posées et dire à la question numéro 1, il a été répondu oui par 7 voix au moins. Mmh. Voilà. Donc, et en revanche, sur la peine, c'est pas la même majorité, c'est une majorité absolue.
Alors, justement, ce vote sur la peine, je crois que c'est à la fois celui dont j'ai le plus appris et celui qui m'a aussi le plus déstabilisé. Qu'est-ce qui définit une peine juste ou la juste peine pour un accusé qui vient d'être reconnu coupable ? N'étant pas des professionnels de la loi, on s'appuie sur ce qu'on a, c'est-à-dire à la fois le maximum encouru, les réquisitions de l'avocat général et ce cadre qui nous est présenté aussi avec la lecture de plusieurs articles du Code pénal. Ces articles, ils rappellent d'abord qu'une peine, c'est une sanction, mais elle est aussi destinée à favoriser la réinsertion. Une peine, elle est aussi individualisée. Elle va dépendre notamment des circonstances du crime commis. Madame la Présidente, la lecture de ces articles, elle est centrale, non, dans ce processus de décision sur la peine ?
D'ailleurs, c'est prévu, hein, le président doit lire ces articles-là. L'article 130-1, dans un premier temps, qui rappelle l'objectif de la peine. Hein, qu'est-ce qu'on vise quand on prononce une peine ? Et effectivement, premièrement, il y a la sanction, et deuxièmement, il y a l'insertion, la réinsertion. Donc, voilà. Et ensuite, le grand principe de l'individualisation de la peine, puisqu'il faut tenir compte de la situation personnelle, familiale, sociale de l'accusé. Donc oui, je pense que c'est fondamental, oui, oui.
Et justement, je pense que c'est là, moi, que j'ai le plus appris. Je ne sais pas pour toi, hein, Marie, mais en fait, ce grand principe de l'individualisation de la peine, il va rester gravé. Qui n'a jamais commenté de façon péremptoire une décision de justice sans même avoir eu connaissance de l'affaire ? Je crois qu'après avoir été juré, il ne peut plus en être question. Ça offre en tout cas davantage de recul et peut-être un regard différent. C'est aussi ce que tu ressens, toi, Marie, après cette expérience ?
Ah bah oui, complètement. Et surtout, en fait, c'est vrai que on découvre qu'on va, effectivement, pendant l'audience, on va apprendre beaucoup de choses sur, justement, l'accusé, son enfance, sa psychologie. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi, en fonction de telle ou telle histoire et telle affaire, ce sera pas du tout les mêmes peines qui seront requises.
Mmh, ouais, des peines différentes, hein, d'une affaire à l'autre. Alors, il y a donc ce que l'on a retenu et on va y revenir un peu plus en longueur. Mais il y a aussi ce qui se passe dans cette salle des délibérés après ces lectures d'articles du Code pénal commencent un nouveau tour de table. On va chacun être amené à partager avec les autres une fourchette d'années de prison, plus ou moins large. Ce n'est qu'ensuite, après cet échange, après aussi des questions sur les réductions de peine notamment, que l'on va voter sur nos petits papiers encore, avec un chiffre précis cette fois, un tour de table, deux, trois, autant que nécessaire en fait, jusqu'à ce qu'une majorité absolue donc se dégage. Tout cela peut prendre du temps, hein. Il file en vrai quand on est dans cette salle des délibérés. Il doit sans doute être beaucoup plus long pour celles et ceux qui attendent la décision. Et à l'heure du verdict, les couloirs du tribunal sont déjà largement désertés.
Mesdames et messieurs, la cour.
Vous pouvez vous asseoir. Après délibération à la question 1 et 2, il a été répondu.
L'annonce de ce verdict, tu en gardes quel souvenir, Marie ?
C'est le moment le plus difficile de cette expérience. Enfin, vraiment, c'est. Je trouve qu'à ce moment-là, tu prends vraiment la mesure de ce qui s'est passé ces derniers jours et surtout ces dernières heures pendant le délibéré. T'as beau être une seule personne parmi tous les jurés et les magistrats, ce verdict, on est quand même un peu responsable et il a un impact sur des vies. Enfin, c'est hyper fort ce moment.
Tu regardais qui, quoi ? Tu regardais tes pieds ? Tu regardais ton bureau au moment de l'annonce du verdict ?
Je balayais la salle en fait pour regarder et pas. T'assumes quand même un peu ce que t'as fait, mais en même temps je voulais pas fixer mon regard sur qui que ce soit. Je trouve que c'est difficile et vis-à-vis de la victime et vis-à-vis de l'accusé.
Ouais, le cœur qui bat à 10 000, les yeux qu'on ne sait pas où poser. Qui faut-il regarder ? Accusé, partie civile, avocat, magistrat ? Moi, je sais même plus où j'ai posé mon regard. Vous le sentez, ça, Madame la Présidente, cette tension à vos côtés, puisque les jurés sont installés à vos côtés, hein, sur l'estrade, pendant les audiences et pour le verdict?
Ah oui, oui, oui. Mais même pour le président, enfin même pour moi en tout cas, c'est un moment difficile. C'est pas simple. Ouais, ouais.
On prend jamais l'habitude en fait.
Non, jamais. Non, non, jamais. Alors, ce qui nous protège un petit peu, c'est que comme du coup, pour pas se tromper, on lit, hein, on lit les réponses aux questions et donc on fixe personne là pour le coup. On aimerait en même temps savoir comment réagit la partie civile, comment réagit l'accusé, comment sont les avocats. Mais peut-être qu'on se défile un peu et qu'on se fixe sur sa feuille pour éviter des retours trop qui sont peut-être un peu difficiles à encaisser. Ouais.
Ça n'est jamais violent ?
Si, ça peut être violent. Oui, oui, ça peut. Il y a parfois des réactions dans la salle. Oui, ça peut arriver. Hein.
Ouais. Et parmi les jurés, il y a des jurés qui se tétanisent, qui pleurent.
La dernière session. Pourtant, vous voyez, le délibéré, les jurés s'étaient exprimés, ils avaient tous fini par tomber d'accord, on était tous tombés d'accord sur une peine, etc. Et au moment de l'énoncé du verdict, pour l'accusé, ça a été un moment difficile. Et du coup, il y a des jurés qui se sont mis à pleurer. Il y avait une charge émotionnelle qui était trop forte, ce qu'on peut comprendre. Elle n'assumait plus, mais on arrivait au terme d'un processus qui avait été quand même... fort et il y a une décharge un peu émotionnelle qui se produit et voilà.
Et c'est vrai que la charge émotionnelle à ce moment-là est immense parce qu'on est entré tout au long de ce procès, comme jamais on ne le fait dans la vie, dans l'intimité de gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et dont les vies ont basculé, leur histoire, on a vécu avec pendant quelques jours et puis tout d'un coup ça s'arrête. Comment tu as vécu ça toi, Marie, tout au long du procès et après le verdict ?
Alors c'est assez fou parce qu'effectivement pendant le procès tu ne fais plus que ça en fait. C'est vrai que les journées sont quand même assez longues et donc on rentre assez tard à la maison et moi j'en rêvais même la nuit, j'avais du mal à dormir, enfin c'était assez fatigant et éprouvant. C'est des histoires de vie en fait, de vie difficile et voilà, c'est quand même c'est un peu la vraie vie, donc ça nous rappelle la réalité. Et en même temps, ça dure que quelques jours et c'est assez intense. Et en fait, une fois que tout ça c'est fini, tu reprends ta vie, tu reprends les transports, tu rentres chez toi et en fait, tu passes à autre chose et t'oublies. Mais c'est vrai que la vie continue. Donc le fait de reprendre sa vie normale, j'ai pas trouvé ça difficile de passer à autre chose.
Je voudrais savoir maintenant, Marie, ce que tu en as retiré de cette expérience de juré. D'abord quand même une question, tu avais déjà eu l'occasion avant cette session d'assises de te rendre dans un tribunal, d'assister à un procès, que ce soit d'ailleurs aux assises ou en correctionnel ?
Pas du tout, donc c'était une vraie découverte.
Ouais, c'était un vrai premier contact avec l'univers de la justice. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé d'ailleurs quelque chose pour toi ?
Oui, ça, forcément ça m'intéresse plus parce que j'y ai été confrontée. Donc je vais plus m'y intéresser et forcément mieux comprendre aussi les ressorts. Donc ça m'a apporté un intérêt.
Ouais, je sais pas pour toi Marie, mais autour de moi il y a plein de gens qui m'ont dit oh là là, je crois que je pourrais pas être jurée. Alors en fait une nouvelle fois, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est passionnant pour cette plongée d'abord dans le monde de la justice. Qui a beau être accessible, il n'en reste pas moins lointain parce que franchement, il faut être étudiant ou retraité pour avoir le temps d'aller dans les salles d'audience. Par ailleurs, étant sensible au sujet des difficultés des conditions d'exercice des magistrats, moi j'ai eu le sentiment qu'être juré, ça permettait aussi de toucher un peu du doigt cette réalité-là. Donc l'intérêt, il est incontestable pour les citoyens, les justiciables même que nous sommes. La question que je me pose maintenant, Madame la Présidente, c'est quel est l'intérêt pour vous, magistrats ? Qu'est-ce que vous apportent les jurés ? On n'est pas parfois plus des boulets qu'autre chose ?
Je trouve pas que les jurés soient un poids, soient des boulets. Non, d'ailleurs, je ferais pas ce métier-là, mais... Si parfois il m'arrive de douter, je me raccroche au retour que vous me faites. C'est vrai que même si ça paraît un peu convenu et grandiloquent de le dire comme ça, moi je pense que la pratique du jury populaire, elle doit être maintenue avec ses imperfections. Parce que je crois que ça reste un des derniers endroits où s'exerce une forme de démocratie directe. Moi, j'ai l'habitude de dire que cet exercice, il nous oblige à sortir de notre zone de confort. Le juré citoyen, enfin le citoyen devenu juré, d'abord, celui à qui on n'a pas demandé d'être là, hein, qui se voit sollicité pour rencontrer les gens qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer peut-être, qui doit écouter, échanger, débattre, défendre un point de vue et puis finalement décider. Moi, je trouve qu'en ces temps où on réclame une démocratie plus participative, ben, c'est l'occasion qui est donnée là un peu à tout un chacun de s'intéresser directement à l'application de la loi qui est votée par les représentants. Et ça ne peut que renforcer, il me semble, le sens des responsabilités. Il ne faut pas sous-estimer, hein, moi, je pense, les capacités de compréhension de nos concitoyens. Hein, pour peu qu'on prenne le temps d'expliquer et que l'audience a effectivement tenu ses promesses de contradictoire. Moi, j'ai l'impression que chaque juré, à la fin de l'audience et au moment du délibéré, il est très naturellement capable d'un véritable raisonnement qui inclut plusieurs paramètres, hein, qui intègre plusieurs paramètres. Moi, je suis souvent très bluffée, hein. Et puis, ça nous permet à nous aussi ça nous oblige nous aussi à sortir de notre zone de confort, nous, magistrats, puisque on doit faire un effort de pédagogie. Et en même temps qu'on le fait, ça nous permet de vérifier que notre position tient la route. Elle est enrichie quand même de toutes les contributions des uns et des autres. Donc, c'est une espèce de collégialité plus ouverte. Il s'agit quand même d'éviter d'être dans l'entre-soi avec une routine qui peut être dangereuse. Non, franchement, je suis pour partager avec les jurés cette responsabilité-là.
Ouais, le maintien du jury populaire qui a été défendu, hein, dans une tribune normande, oui, il n'y a pas très longtemps, par de très nombreux professionnels, parce que justement, il va y avoir l'élargissement de l'expérimentation des cours criminels pour les crimes, notamment les viols en l'occurrence. Ouais. Donc là, ce sera que des magistrats. Mais ça n'irait pas plus vite, malgré tout, une justice sans jurés? Parce que c'est souvent le reproche qu'on fait à la justice, qu'elle est un peu lente. Nous, c'est vrai que les affaires sur lesquelles on s'est penché, elles avaient déjà au moins 3 ans. Ça veut dire que ouais, le temps passé en prison pour les accusés avait été très long.
Oui, alors, lent pour qui, hein? Parce qu'il faut distinguer la lenteur de la justice qu'on met toujours en avant. La lenteur en amont, pendant le temps de l'instruction, il est quand même largement dû au manque de moyens. Hein, quand un juge d'instruction, il a 150 dossiers dans son cabinet, il ne peut pas avancer assez vite. Et après, au moment de l'audience, lent pour qui? Pour l'accusé, est-ce que ça mérite pas cette temporalité de la cour d'assises? Elle est vraiment très particulière et je trouve que c'est ça qui fait son intérêt et qui fait sa force. Pour la partie civile, enfin, je veux dire, on prend enfin le temps. Souvent, j'imagine, les accusés sont même surpris eux-mêmes qu'on prenne autant de temps, notamment sur leur personnalité. Donc, c'est tout un travail qui se fait, comme je le disais en introduction. Le procès d'assises, c'est quand même un moment dans un processus judiciaire et qui a toute son importance, tout son intérêt auquel l'accusé doit participer. Et du coup, je pense qu'on peut pas faire ce reproche de la lenteur vous voyez, en justice de luxe, oui, mais enfin, c'est des années de prison qui sont encourues, c'est des choix qui sont difficiles à faire. Et moi, je pense que ce temps, il est nécessaire. Franchement,
Maintenant, ma dernière question pour toutes les deux. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Ah, c'est comme la parole à l'accusé.
La parole à l'accusé.
En dernier, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Écoutez, moi, la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que j'aimerais que finalement chaque citoyen fasse cette espèce d'expérience, puisque vous le disiez vous-même, plus jamais je n'aurai d'avis aussi peut-être péremptoire et tranché en entendant parler d'une affaire judiciaire, mais ne serait-ce que pour ça. Je trouve que c'est la mission est remplie d'une certaine manière. Et vous voyez, avec les cours d'assises, il y a 20 000 citoyens par an qui sont désignés pour participer. Avec les cours criminels, il n'y en aura plus que 10 000. Moi, je le regrette un peu, parce que je pense qu'encore une fois, c'est un exercice citoyen qui est unique.
Marie ?
Moi, j'aurais pu ajouter effectivement qu'en plus, c'était... voilà, on se retrouve un peu à échanger avec des gens qu'on connaît absolument pas et avec qui finalement on passe ses journées, on crée des liens, on partage des déjeuners, on prend les transports ensemble et puis à la fin de tout ça, qui sont quand même des journées assez intenses, on se sépare sur le trottoir devant le tribunal et puis chacun reprend sa vie et adieu.
Ce sont des rencontres, donc.
Exactement.
Aussi, et de vrais enseignements. Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Merci, Madame la Présidente, Présidente de Cour d'assises en exercice. Merci aussi à toi, Marie, toi qui as été jurée. Merci de m'avoir accompagnée dans ce double épisode de Focus un peu particulier, hein, puisque le podcast de la rédaction de RTL existe depuis maintenant un an. On va faire en sorte qu'il fête encore plein d'autres anniversaires. Tous les épisodes sont à retrouver sur vos plateformes d'écoute habituelles, sur l'application RTL et sur RTL.fr. Faire.